Je vais vous proposer une conférence sur la représentation de la Rome antique dans la bande dessinée. Donc l'ERLIS, l'équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés, accueille en son sein un projet de recherche qui est lié à la présence à Caen d'un objet que vous avez juste à côté, le plan de Rome de Paul Bigot. Et le but de ce projet de recherche, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour comprendre ou faire comprendre l'architecture, la topographie et l'urbanisme de la Rome antique. Alors comme ça, a priori, on pourrait penser qu'il y a un gouffre entre l'analyse scientifique des sources en milieu universitaire et la bande dessinée qui représente la Rome antique. Je vais vous montrer que dans certains cas, ça ne peut être qu'un petit ruisseau et que nous avons peut-être des choses à faire avec ces deux médias pour faire passer le savoir sur l'Antiquité classique. Un petit mot d'abord de la réalité virtuelle, parce que je vais vous emmener tout à l'heure faire quelques pas dans notre modèle interactif de la Rome antique. Le principe de la réalité virtuelle, c'est de s'immerger dans un environnement numérique pour interagir avec lui, notamment pour se déplacer dans le modèle créé numériquement. Dans le cas du travail sur la Rome antique, il s'agit de restituer la Rome du 4e siècle après Jésus-Christ en faisant la synthèse des sources littéraires, archéologiques et iconographiques pour présenter des hypothèses, essayer de voir si elles fonctionnent et éventuellement proposer de nouvelles hypothèses après examen de la réalité virtuelle. Mais les chercheurs n'ont pas attendu les technologies numériques pour dessiner Rome, que ce soit dans des objectifs scientifiques ou pédagogiques. Un grand nombre d'entre vous connaissent certainement Jean-Claude Golvin, un architecte très connu, aquarelliste de talent, directeur de recherche au CNRS, directeur de fouilles en Égypte. Et Jean-Claude Golvin a publié de nombreux ouvrages sur l'Antiquité qu'il illustre avec ses propres aquarelles. Ici, une image du colosse devant l'amphithéâtre Flavien, plus connu comme étant le Colisée. Et l'œuvre de Jean-Claude Golvin, par certains aspects, est comparable à ce que l'on peut voir dans la bande dessinée. Or, nous collaborons depuis plus de 20 ans avec ce chercheur parce que notre vision de l'image est la même. L'image dans la recherche et l'image dans l'enseignement. Lui travaille avec ses méthodes, qui sont les mêmes méthodes que celles utilisées par ceux qui font de la bande dessinée. Et nous travaillons avec nos méthodes, je vais vous montrer les différences, qui sont celles du jeu vidéo. Les premières bandes dessinées de l'histoire arrivent des États-Unis dans les années 1890 avec The Yellow Kid sur la gauche de l'image et Pim Pam Poum sur la droite, 1897. Pim Pam Poum, c'est la première fois que l'on va trouver une bande dessinée avec des bulles, qu'on appelle des phylactères dans le langage spécialisé. Donc 1897. Pour ce qui est de l'Antiquité dans la bande dessinée, il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La première fois que l'on va avoir une bande dessinée qui va s'intéresser à l'Antiquité, ça va être dans cette série qui s'appelle « Les classiques en images » et où on va utiliser les pièces des auteurs classiques. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va chercher les vers de Racine ou de Corneille. On va écrire les vers de Racine et de Corneille en bas des images et on va les illustrer avec de l'image. Mais à aucun moment, les auteurs n'ont la liberté de modifier le texte. Donc on reste sur une forme de bande dessinée qui reste quand même un petit peu rigide. Quelques années plus tard, en 1949, Jacques Martin va créer un grand classique de la bande dessinée qui va être Alix. La première histoire qui va sortir sur Alix, ce sera Alix l'Intrépide. Et cette histoire-là, elle va sortir dans des journaux, dans le journal de Tintin, par épisode, une double page par semaine. Et Alix l'Intrépide, c'est une série qui va sortir entre 1948 et 1949. Il faudra attendre 1956 pour avoir une première vision complète de cet album. Pour avoir l'intégralité de l'histoire, il faut attendre 1956. Alors sachez, j'imagine que vous le savez tous, Alix de Jacques Martin a connu une histoire extraordinaire. Et j'ai d'autant plus de facilité à vous le dire qu'aujourd'hui, 19 septembre 2018, sort le dernier album d'Alix, qui s'appelle de façon assez classique Weni Widi Wiki, et il sort aujourd'hui. Donc, ça commence en 1956 pour le premier intégral, et c'est une histoire qui continue à vivre aujourd'hui. Jusqu'à la fin des années 50, les bandes dessinées consacrées à l'Antiquité vont quasiment toutes sortir dans des journaux, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui. Et ces journaux, ça va être le journal de Tintin, on en a déjà parlé, Spirou, Mickey. Et en 1951, Spirou va un petit peu se distinguer des autres journaux parce qu'il va sortir une série qui va avoir un certain succès. Ce sera les histoires de l'oncle Paul. Alors le lecteur va être placé dans la peau d'un enfant. Vous voyez qu'il est représenté en haut à gauche de la diapositive. Et puis, ces enfants vont recueillir les souvenirs de leur vieil oncle Paul. Alors, l'oncle Paul est un personnage très rassurant. Regardez sa tête avec un visage très rond, la pipe. Et puis, en même temps, il porte quand même un costume, un nœud papillon. Donc, il a une certaine crédibilité. Il a une allure, si vous voulez, d'intellectuel distingué, pour dire les choses un petit peu de façon caricaturale. Cette relation de l'adulte à l'enfant correspond à une vision un petit peu idéalisée de l'éducation où la transmission de la culture va être une affaire de famille. Entre les années 50, donc 1951, la première parution, et 1980, il va y avoir 79 aventures, 79 récits des histoires de l'oncle Paul. Et sur ces 79 récits, seulement une dizaine sera consacrée à l'Antiquité. Donc l'Antiquité reste quand même en marge des explications historiques qui sont données dans cette série. Donc on a parlé du journal de Tintin, on a parlé de Spirou. Le journal de Mickey va lui aussi s'emparer du sujet, commencer à s'intéresser à l'Antiquité, avec par exemple cette histoire au titre prometteur, Gare aux flèches, Gaius, qui va sortir dans les années 1959-1960. Et là aussi, ça sera des épisodes. Il va falloir acheter 23 revues du journal de Mickey pour avoir l'histoire complète. Je ne résiste pas à vous lire juste la petite phrase qui était mise en quatrième de couverture pour pousser le lecteur à acheter toujours le dernier journal. Je vous lis la quatrième de couverture. Donc c'est une aventure qui est à la base fondée sur un roman, le roman de Frédéric Hoé, qui écrit des polars à l'antique. Alors voilà ce qui était écrit dans le journal. « Affronter 3 enlèvements, 20 assassins et la colère de Néron, quelle mission pour Caius ?» très bon marketing pour utiliser l'Antiquité et vendre 23 journaux de Mickey pour avoir l'histoire complète. Voilà pour Mickey. Le journal pilote va lui aussi vouloir proposer quelque chose et en 1959, ils vont inventer quelque chose d'un petit peu différent, c'est ce qu'on va appeler le pilotorama. Alors, qu'est-ce que c'est que le pilotorama ? C'est un poster qui va être placé au centre du journal et qui est conçu pour être détaché. Et ce poster va montrer de façon très détaillée des restitutions de sites historiques pour que le grand public puisse mieux comprendre ces sites. Donc là, on va être sur quelque chose de plus scientifique. On va, par exemple, ici, essayer de représenter le champ de Mars avec le mausolée, le Panthéon, essayer de donner un petit peu d'explications et... Les passionnés de ce journal vont collectionner les posters. Alors sachez que si vous avez des journaux, des pilotes de cette époque-là, en général le poster n'est plus au milieu, parce que tout le monde prenait son poster pour le collectionner. Et si vous avez la chance d'en avoir, sachez qu'ils ont une valeur marchande loin d'être négligeable, dirons-nous. Et c'est justement dans Pilote que sortira en 1959... Vous imaginez bien que j'allais venir à Astérix. C'est dans le journal Pilote que sortira en 1959 la bande dessinée qui va connaître le plus grand succès éditorial jamais connu pour une bande dessinée qui parle de l'Antiquité. Bien sûr, ça va être Astérix. Astérix a connu un succès comme on n'en a jamais vu ailleurs. Le premier album va sortir en 1961, Astérix le Gaulois. Et en une année, ils vont vendre 700 000 albums. 700 000 albums écoulés en une année. Aujourd'hui, les albums d'Astérix se sont traduits un petit peu partout dans le monde. de Hong Kong jusqu'à la Nouvelle-Zélande, tout le monde lit Astérix, et on estime que Uderzo et Goscinny ont vendu 250 millions d'albums d'Astérix dans le monde. C'est tout à fait incroyable, et pour nous, ça fait vivre nos disciplines. À l'opposé d'Astérix, qui est une bande dessinée quand même assez aseptisée, les années 80 vont voir fleurir des bandes dessinées qui vont donner beaucoup plus d'importance au sang et au sexe. Parce que le but, c'est quand même de vendre. Et on va voir des scènes comme celle-ci, à partir des années 80, apparaître en beaucoup plus grand nombre dans la bande dessinée consacrée à l'Antiquité. On va suivre un courant véhiculé par le cinéma, où on va présenter les Romains comme des gens barbares, assoiffés de sang, n'ayant aucune considération pour la vie des esclaves ou la vie des gladiateurs, par exemple. Et je ne vous parle même pas des mœurs sexuelles des Romains. J'ai pas eu besoin d'ouvrir beaucoup de bandes dessinées pour trouver quelques planches. Ça n'apporte pas grand-chose pour la compréhension de l'intrigue, mais ce sont des choses qui vont fleurir de plus en plus dans les bandes dessinées consacrées à l'Antiquité. Voilà l'aperçu historique rapide que je voulais faire. Mon but maintenant, ça va être de prendre un cas précis. Je vous ai affiché ici à l'image un plan, une restitution issue d'un ouvrage scientifique très pointu. C'est le guide archéologique de Rome de Filippo Quarelli. C'est un des grands topographes de la Rome antique. Voilà le plan que Filippo Quarelli publie pour représenter le Forum romain. Alors, on va essayer de se repérer un peu parce que nous allons parler de ces bâtiments dans les prochaines minutes. Que trouve-t-on sur le Forum romain ? Le Forum romain, c'est le cœur de la ville romaine. C'est le centre politique, administratif et religieux de Rome. On va donc trouver sur ce forum romain des bâtiments liés à la politique, la curie, où vont se rendre les sénateurs, donc c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, c'est là qu'à l'époque républicaine, un certain nombre de décisions vont être prises. Les rostres, c'est une tribune sur laquelle montaient les hommes politiques pour s'adresser à la foule, voilà pour les édifices liés à la politique. On va avoir bien sûr beaucoup de temples, puisque la religion a beaucoup d'importance à Rome. Le sanctuaire de Vesta, dans lequel brûle la flamme sacrée qui protège la ville. Le temple de Saturne, avec son très haut podium. C'est là que le trésor de Rome, dans le podium du temple, c'est là que le trésor de Rome était conservé. Donc un temple très ancien. Le temple de Castor et Pollux, le temple de la Concorde, le temple du divin César, le temple de Vespasien, vous voyez que ce forum romain est vraiment entouré par des temples qui viennent de différentes époques. Et puis là-haut, le temple à Jupiter Capitolin, qui se trouve sur la colline du Capitole, et dont on disait jusqu'à récemment qu'il dominait le forum romain. Vous verrez tout à l'heure que nous pourrons revenir sur cette vision. Et puis on a également d'autres édifices qui sont les basiliques, il y en a trois. Elles servent de double couvert du forum. C'est là que le préteur va rendre la justice, c'est l'équivalent d'un tribunal. Et puis sinon, c'est là qu'on va s'installer pour discuter, pour parler affaires quand il pleut ou quand il fait trop froid sur le forum. Donc voilà la vision du forum par un spécialiste de topographie ancienne. Maintenant, regardons ce que ça peut donner au niveau d'une bande dessinée. Alors j'ai choisi les voyages d'Orion parce que le but de cette bande dessinée, c'est précisément de représenter l'architecture et la topographie de Rome. Il faut quand même comparer des choses qui sont comparables. Regardez ce que l'on retrouve dans cette bande dessinée. Exactement les mêmes bâtiments que ceux que je vous ai montrés sur la publication scientifique. Basilique Julienne, temple de Saturne avec le haut podium pour le trésor, le temple de Vespasien divinisé, le temple de la Concorde, l'arc de Septime Sévère, et regardez là-haut, sur la carte en haut à gauche, le dessinateur a représenté le temple de Jupiter Capitolin. Et d'après cette représentation en bande dessinée, quand on est sur le forum romain, on voit le temple de Jupiter Capitolin. C'est ce qui est sous-entendu ici. Vous verrez que dans notre modèle virtuel, et d'après les recherches les plus récentes, on ne voit pas ce temple quand on est sur le forum romain, parce qu'il est masqué à cause du relief par les autres édifices qui ont été construits devant. Donc, on va prendre une autre planche pour avoir l'autre côté du forum. Je vais repartir sur l'arc de Septime Sévère à gauche, la curie pour le Sénat, la basilique émilienne, le temple d'Antonin et Faustine, la basilique de Maxence et Constantin. Donc a priori, on retrouve exactement la même chose dans la bande dessinée que dans la publication scientifique. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut donner, ce forum romain, si je passe au modèle virtuel développé dans notre équipe? Voilà, je vous ai apporté le modèle virtuel. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans cette équipe de recherche? Nous analysons les sources littéraires, les sources archéologiques et les sources iconographiques pour créer un modèle interactif de Rome sur le même mode qu'un jeu vidéo. Et je suis latiniste et j'utilise une manette de jeu vidéo, donc il n'y a pas de problème. L'intérêt par rapport à l'image que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est que regardez, tout est interactif. Il n'y a rien de précalculé. Je peux choisir d'aller faire un commentaire sur la curie. On est à hauteur humaine, on est à hauteur des yeux, c'est-à-dire que l'avatar ici se déplace comme nous aujourd'hui. La vitesse de déplacement est calculée d'après une vitesse de déplacement réelle et je vois la curie telle que la voyait un Romain en 320 après Jésus-Christ. Donc, je peux aller où je veux. Cette possibilité de se déplacer nous permet de tester différentes choses qu'on ne peut plus faire en réalité. Je vais vous donner un exemple. Combien est-ce qu'il faut de temps pour aller s'installer sur les derniers gradins en bois du Colisée? On n'en sait rien. Les sources ne le disent pas et on ne peut pas le tester sur place parce que les gradins du Colisée ont été récupérés pour faire autre chose. Donc je ne peux même pas aller le tester sur place. Le modèle virtuel, une fois que le Colisée a été restitué, qu'on a refait les circuits de circulation, nous permet de faire ces tests. Je vais vous montrer autre chose. On va entrer à l'intérieur d'une des basiliques que vous avez vues tout à l'heure dans la bande dessinée. C'est la basilique émilienne. Un auteur latin qui s'appelle Pline l'Ancien nous dit que la basilique émilienne, c'est un des plus beaux bâtiments de la Rome antique. Regardez la restitution. Ici, vous avez des marbres polychromes, c'est-à-dire des marbres de couleur sur le sol. Ils ont été restitués très fidèlement d'après les fragments de marbre mis au jour par les archéologues. Donc nous utilisons vraiment toutes les sources pour vous donner une image la plus pertinente possible de ce que pouvait être ce bâtiment. Et comment se présente ce bâtiment aujourd'hui? C'est là que le modèle virtuel a une autre fonction qui est très intéressante, c'est que je peux accéder à une base de données et là, vous montrer ce qu'il reste du bâtiment aujourd'hui. Regardez la basilique émilienne aujourd'hui, c'est ça. Elle a servi de carrière. Tous les marbres ont été récupérés pour être refondus, pour faire de la chaux. Et je vous assure que quand on est là et qu'on ouvre l'histoire naturelle de Pline, ben, il ne se passe pas grand-chose. Moi, je veux bien, quand on est ici, dire aux étudiants que c'est un des plus beaux bâtiments de la Rome ancienne. Comment leur expliquer ce qu'il y a une basilique? Comment leur expliquer l'arche centrale? Vous voyez toute la difficulté. Avec le modèle virtuel, vous voyez là, tout de suite, je suis juste devant cette porte-là. Vous voyez la porte voûtée? Je vais revenir dans le modèle virtuel. Voilà, je suis devant cette porte voûtée et je vais vous emmener dans la nef. Donc ça a fait l'objet de recherches dans notre équipe. Il y a eu des masters de recherche pour effectuer ce travail. Et voilà à quoi ressemblait la basilique émilienne avec ses deux étages. Et là, on comprend les textes latins qui nous disent que les Romains, qui étaient très friands des procès, montaient à l'étage et se penchaient à la mezzanine pour écouter l'orateur. Tous les textes reprennent vie. Et la liaison du modèle virtuel à la base de données me permet de vous dire à chaque instant quelles étaient les sources primaires à notre disposition pour proposer cette restitution, de quoi on est parti, et puis de rédiger des petits textes pour vous dire, par exemple, ben voilà, là, la couleur au sol, elle est sûre à 100% parce qu'elle est conservée. Par contre, l'élévation, elle est hypothétique parce qu'elle a été calculée selon telle et telle méthode. L'idée, si vous voulez, ce n'est pas juste de vous donner une image, mais de vous expliquer comment on est parvenu à cette image. Voilà pour le modèle interactif. Alors, je vais vous proposer maintenant de revenir sur ce qui nous intéresse, à savoir une comparaison entre ces deux supports. La première réflexion ne va pas être à l'avantage du modèle virtuel que nous développons ici. La première réflexion, si on regarde cette image, c'est que l'image de bande dessinée va permettre d'aller très loin dans la représentation des détails. Vous voyez ici les immeubles fissurés, le chat, l'égout, les personnages, l'eau qui coule. Et tout ça, c'est formidable parce que ça donne de la vie à l'image de cette bande dessinée. Moi, dans le modèle virtuel, je vous ai fait voir, dans l'état actuel des choses, une Rome qui est très propre, presque aseptisée comme Astérix, et qui n'a pas ces personnages. Alors, pourquoi ? Pourquoi ces différences ? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes contraintes ni les mêmes objectifs. Dans la réalité virtuelle, je suis sur un moteur temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur une flèche ou sur la manette, l'ordinateur doit en quelques millisecondes recalculer une nouvelle image. Donc, je suis dépendante des capacités de la carte graphique de mon ordinateur, des capacités de l'ordinateur. Il ne faut pas que l'image saccade quand je vais tourner la tête. Donc, je dois m'adapter aux capacités de l'ordinateur. Une image comme celle-ci, c'est une image, c'est juste une image. Donc, le dessinateur, s'il veut, peut passer une semaine, un mois, à rajouter des détails sur sa bulle. Il peut y passer le temps qu'il veut. Moi, l'ordinateur, il faut qu'il réagisse en quelques dixièmes de seconde. Donc, au niveau graphique, dans l'état actuel des choses, il est certain qu'on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Une autre différence importante, c'est que dans la bande dessinée, on est sur un plan fixe. Donc, on choisit de montrer ce qu'on veut. Dans le modèle interactif, l'utilisateur peut aller partout. Et donc, si j'ai un bâtiment très compliqué, on ne sait pas comment il était, c'est difficile de savoir. Et bien, dans la bande dessinée, c'est ce que fait Jean-Claude Golvin, on ne sait pas comment représenter ce fauteuil. Ben, on fait un angle de vue un petit peu différent, et puis on ne le représente pas, on montre autre chose. Nous, dans notre modèle virtuel interactif, on peut aller partout. Et donc, le difficile à faire, il faut bien qu'on le fasse. Il faut bien qu'on prenne du temps pour le faire. Et du coup, on a un temps de recherche qui est nécessairement beaucoup plus long que sur des images fixes comme celle-ci, où des choix peuvent être faits sur les différents cadrages. Parlons un petit peu maintenant des différents objectifs entre la bande dessinée et le modèle virtuel interactif. Le but de ce que nous faisons avec notre projet Rome virtuel, c'est d'avoir deux objectifs. D'un côté, la recherche, faire avancer le savoir sur la topographie et l'urbanisme de Rome, et puis d'un autre côté, l'enseignement, expliquer ce qu'était Rome à nos élèves. Quel est maintenant le but de la bande dessinée ? À coup sûr, de distraire, et puis dans certains cas, de faire passer du savoir. Qu'une bande dessinée soit là uniquement pour distraire, qu'elle soit aussi fantaisiste qu'elle le souhaite, ça ne nous pose aucun problème en tant qu'universitaire. Là où nous commençons à avoir des difficultés, c'est quand certaines bandes dessinées se présentent avec un caractère scientifique. Vous voyez ici Murena, qui va avoir un glossaire assez long au début de la bande dessinée, qui va avoir une bibliographie à la fin, qui est une bibliographie en plus qui va citer des ouvrages tout à fait pertinents et reconnus, comme celui de Paul Venn, donc ça a l'air scientifique. Mais le souci, c'est que la bande dessinée ne tient pas compte de ce qui est écrit dans ses livres. L'ouvrage de Paul Venn, il est très bien, sauf que les représentations de la ville dans la bande dessinée ne sont pas en accord avec ce qui est écrit dans ce livre. Donc là, ça me pose déjà un petit peu plus de problèmes. Je vais vous donner un exemple. Je vais rester sur Murena. Voilà la façon dont la bande dessinée Murena représente la ville de Rome. A priori, vous allez me dire, ça ressemble à Rome. Oui, sauf que la bande dessinée se passe sous Néron. Donc on est entre 54 et 68 après Jésus-Christ. Alors regardez ce qu'il y a de représenté sur l'image. Le forum de Vespasien, construit en 71 après Jésus-Christ. Le forum de Nerva, construit en 97 après Jésus-Christ. Et dès comme ça, moi, je peux vous en trouver 7-8 sur chaque image. On représente une ville qui ne correspond pas à l'image où est censée se passer l'histoire. Comment ça se fait ? Eh bien, tout vient du fait que, pour cette bande dessinée, ils ont choisi d'utiliser des sources secondaires et non des sources primaires, comme nous le faisons en milieu universitaire. Qu'ont-ils fait ? Ils n'ont pas fait une étude très pointue pour savoir quelle était la topographie et l'urbanisme de Rome, parce que déjà, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les grandes maquettes de la Rome antique, il y en a deux au monde, vous en avez une ici, et puis ils ont regardé comment tel endroit était représenté, puis ils le reproduisent. Mais ces maquettes-là, elles représentent Rome en 320 après Jésus-Christ. On ne peut pas prendre une maquette qui représente Rome en 320, et puis la dessiner de la même façon, et puis placer l'histoire sous Néron, ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être pour que ça soit plus clair pour vous. C'est comme si on faisait une bande dessinée sur Louis XIV et qu'on représentait Louis XIV dans Paris en représentant Paris avec les boulevards d'Haussmann. Ça vous choquerait, ça? Ben, c'est la même chose pour Rome. On ne peut pas représenter la Rome de 320 et placer Néron à l'intérieur. Une autre source secondaire qui est utilisée dans cette bande dessinée, c'est le cinéma. Vous voyez cette scène où les gladiateurs s'entraînent sur une sorte de mannequin? Sur quoi ont-ils travaillé pour dessiner cette scène? Eh bien, ils se sont inspirés du film Spartacus. Où là, en effet, regardez, il est là le mannequin, ils ont été le chercher là. Sauf que Spartacus, ce n'est pas une source primaire. Ce n'est ni une source littéraire, ni une source archéologique, ni une source iconographique de l'Antiquité. C'est déjà une interprétation. Les sources primaires qu'il aurait été judicieux d'utiliser pour représenter une scène de gladiature, ce sont les graffitis, qui sont encore visibles aujourd'hui sur la gare de Rome, enfin qui étaient visibles il y a quelques années, où on voit très bien un pieu en bois, avec un casque au-dessus, et les gladiateurs s'entraînent sur ce pieu. Il est aussi... Alors, c'est pas facile à lire, parce que la statuette s'est un petit peu effondrée, c'est une statuette en plomb qui a été retrouvée dans le Rhône, à Arles. On voit bien aussi, ici, les gladiateurs qui s'entraînent sur le pieu en bois. Et ces sources iconographiques, elles peuvent être mises en parallèle des textes. Je vais vous lire juste deux textes. Juvénal, on est au 1er siècle, 2 siècle après Jésus-Christ. Il nous parle des gladiatrices. Et il nous dit « Qui n'a vu les entrailles du poteau, donc le palus ? Elle le creuse à grands coups de glaive de bois et de bouclier, attentive à exécuter toute la série des commandements. » Donc le texte nous dit bien qu'on s'entraîne sur un pieu en bois. Et si on prend maintenant le texte de Végès, un petit peu plus tard, 4e, 5e siècle, c'est la même chose. Il nous dit « On donnait aux nouveaux soldats le bouclier rond d'osier qui pesait le double de ceux dont on se servait à la guerre, et des bâtons deux fois plus lourds que les glaives dont ils tenaient lieu. Avec cela, on les faisait s'exercer le matin et l'après-midi contre le pieu. Cet exercice ne fut pas moins utile aux gladiateurs qu'aux soldats, et les uns et les autres ne se distinguèrent jamais sur l'arène et sur le champ de bataille qu'après s'être ainsi exercés sur le pieu. » Donc les sources primaires, il y en avait. Il y avait moyen de faire autre chose. Mais ils ont préféré représenter l'entraînement tel qu'il est figuré dans Spartacus. Et là, il y a quand même un mélange des genres avec une bibliographie scientifique d'un côté et une représentation assez imaginaire de l'autre. Alors, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Il y a des bandes dessinées qui se revendiquent comme scientifiques et qui réussissent très bien cet exercice. Il y en a plusieurs. Je vous ai juste ici mis une image d'Arélate. Arélate, je pense que c'est un modèle de restitution, que ce soit pour l'architecture, la représentation des bâtiments en train d'être construits, ou les machines, les grues ici pour élever les pierres, le vélum pour protéger les spectateurs du Colisée. Cette histoire, cette bande dessinée a réussi le mélange entre la science et la distraction. Et puis je voudrais quand même revenir sur Astérix. Parce que Astérix ne s'est jamais revendiqué comme une bande dessinée voulant faire passer du savoir. Astérix, c'est clairement pour distraire. Et pourtant, ils ont fait des efforts dans cette bande dessinée. Regardez le domaine des dieux, ici, où Astérix et Obélix arrivent devant un immeuble d'habitation construit par les Romains. Et bien, cette représentation d'immeuble, elle est tout à fait pertinente. Ils ont pris pour modèle une maquette qui se situe dans un musée de Rome et qui a été réalisée d'après l'analyse des sources archéologiques de la ville d'Ostie, à quelques kilomètres de Rome. Donc, cette représentation-là, elle est très bonne. Même s'il y a d'autres problèmes dans la bande dessinée Astérix, puisque vous le savez tous, César n'a jamais été empereur, bien entendu. Quelques mots maintenant de conclusion. Et pour la conclusion, je voulais afficher l'affiche du séminaire que nous organisons, qui s'appelle « Les Nocturnes du plan de Rome ». C'est un séminaire gratuit, ouvert à tous, pendant lequel nous diffusons donc 5 fois dans l'année quelques parties du modèle virtuel de Rome en expliquant les sources et en vous promenant dans le modèle virtuel de Rome. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Quelques points de conclusion, une conclusion que je voudrais faire en 3 points par rapport à la représentation de Rome dans la bande dessinée. Premier point, le dessin d'illustration coloriée, tel qu'il se pratique dans la bande dessinée, peut être un outil de recherche et d'enseignement au même titre que la réalité virtuelle. La distinction technique ne se situe plus aujourd'hui entre le dessin manuel et le dessin numérique, car la plupart des illustrateurs utilisent aujourd'hui les techniques numériques pour finir, colorier ou reproduire leurs dessins. La distinction se fait uniquement entre d'un côté une image fixe et de l'autre côté une image interactive avec laquelle on peut interagir. Second point de conclusion. La bande dessinée de distraction, comme le jeu vidéo de distraction, ne peuvent pas être des outils de recherche et d'enseignement au sens strict du mot, car ils correspondent tous à un modèle économique. Ils sont là pour gagner de l'argent. Or, le plan de Rome virtuel que je viens de vous montrer a demandé plus de 20 ans de travail et on est toujours en train de travailler dessus. C'est évident qu'il n'y a pas de modèle économique dans la recherche, mais ce n'est pas fait pour. Donc, il faut faire attention à la frontière entre les deux. Et puis, pour terminer, la bande dessinée, le péplum, même le jeu vidéo, pourrait utiliser de l'illustration issue du monde scientifique, à condition que celui-ci en produise davantage, que les chercheurs acceptent de produire des images, acceptent de travailler avec des illustrateurs, acceptent de créer des outils comme celui-là qui s'apparentent à des jeux vidéo, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, aujourd'hui. Je vous remercie.